France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
De la course à la mairie de New York au débat parlementaire français sur la taxe Zucman, un mot s'est imposé dans les débats politiques, celui d'oligarque, longtemps réservé aux seuls milliardaires de l'ex-URSS. Le terme prend une acception nouvelle en France pour dénoncer la trop grande mainmise des milliardaires sur les médias et sur la politique. Mais comment expliquer que ce terme inventé sous la Grèce antique pour caractériser un régime est aujourd'hui cette postérité? Regardons justement 24 siècles en arrière pour comprendre les mécanismes qui ont exploité la fragilité de la démocratie athénienne et les façons d'agir de ses ennemis grâce à notre invité ce soir, Dominique L'Enfant. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, directrice de l'Institut d'histoire grecque de l'Université de Strasbourg. Vous avez traduit la Constitution des Athéniens de Pseudo-Xénophon. C'est aux éditions Belles Lettres, ça date de 2017. Et plus récemment, vous êtes l'autrice de Histoire perse au pluriel, aux éditions Belles Lettres, une nouvelle fois, qui a paru en janvier dernier. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1, je le rappelle. Merci à nouveau de m'accompagner dans cette interview du mercredi soir.
Nous n'opposons pas le peuple aux élites, nous opposons le peuple à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est ces petites poignées de possédants à échelle du monde qui possèdent tout. Tout. À 1% autant que 99% des autres.
Ce n'est plus une nation, mais une société multiculturelle éclatée. Ce n'est plus la République française, notre démocratie. C'est un régime oligarchique où domine une caste au service des puissances d'argent. Une société où la seule loi est la loi du plus fort.
I do not often find myself in the habit of thanking Elon Musk.
Je n'ai pas souvent l'habitude de remercier Elon Musk, mais je dois admettre qu'il a fait un travail exceptionnel pour prouver ce que nous étions quelques-uns à dire depuis des années. Et c'est le fait que nous vivions dans une société oligarchique dans laquelle les milliardaires contrôlent pas seulement notre politique et l'information que nous consommons, mais aussi notre gouvernement et nos vies économiques.
Les expressions successives de Jean-Luc Mélenchon, d'abord Marine Le Pen, ensuite Bernie Sanders, enfin. Restons en France un instant, Dominique L'Enfant. Comment est-ce que vous analysez l'usage de plus en plus important de ce terme-là, oligarque, le terme associé oligarchie? On le retrouve de plus en plus dans le débat public. Pourquoi?
Alors, on entend beaucoup plus oligarchie qu'oligarque, je crois, en France. Et c'est presque toujours dans la bouche de représentants des partis politiques. Et si on cherche à déterminer ce qui est entendu par là, ça désigne généralement un petit groupe de personnes économiquement très puissantes qui sont de connivence avec les dirigeants politiques qui influencent leurs décisions dans le sens de leurs propres intérêts économiques. Et cette influence fait que le terme est péjoratif, puisqu'une démocratie est censée rechercher l'intérêt collectif et l'intérêt de la majorité, et non pas l'intérêt d'une minorité. Le terme a donc un emploi principalement polémique. Personne ne se dit membre de l'oligarchie ou partisan de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est l'adversaire. Et on en a eu quelques illustrations récemment, mais je crois que la première fois qu'on en a eu une illustration éloquente, ça a été dans la campagne présidentielle de 2017. Le terme est apparu en fait en France de manière assez marquante dans les années 2010. Et dans la campagne présidentielle de 2017, on a eu les deux personnes dont on a entendu la voix il y a quelques instants.
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
Voilà, qui se sont présentés tous les deux successivement comme les candidats du peuple contre l'oligarchie. Et bon, comme on sait, le peuple, dans la bouche d'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, c'est une notion largement fantasmée, et ça rejaillit forcément aussi sur la notion d'oligarchie telle qu'elle est comprise parfois. Par exemple, Marine Le Pen, dans un entretien radiophonique qu'elle avait eu après le premier tour, entre les deux tours, incluait dans l'oligarchie la CGT, le PS, les Républicains, les patrons de presse, les éditorialistes, l'Union des organisations islamiques de France, bien sûr, last but not least, en gros toutes ces bêtes noires, et la notion souvent se dilue. Donc j'ai essayé de vous donner un peu la définition telle qu'elle correspond à peu près à ce qu'on entend évoquer quand on dit oligarchie à propos de, d'un phénomène français, mais ce qui est inclus dans ce groupe est assez variable finalement.
Julien Bisson.
Est-ce que, ça c'est pour l'acception française, est-ce que l'acception américaine est très différente? Est-ce que selon les pays, on va avoir justement des cultures pour penser l'oligarchie de façon différente?
Alors, je pense qu'aux États-Unis, on vit aussi des réalités politiques différentes. Là aussi, on parle assez peu d'oligarques, on en parle, mais on parle beaucoup d'oligarchie. Et l'emploi courant est relativement récent. Il y a des universitaires déjà qui parlaient de cela aux États-Unis dans les années 2010 aussi. Mais sur la place publique, c'est quand même assez récent. Hein. Ça date tout particulièrement, de manière marquée, d'un an, de la deuxième élection de Donald Trump et de la... et de sa deuxième investiture. Et Joe Biden, au moment où il a fait son discours d'adieu, a dit « Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique, avec une richesse, un pouvoir et une influence extrême, qui menace littéralement notre démocratie. » Et dès le mois de février 2025, les démocrates ont commencé à organiser une tournée de meetings qui avait comme mot d'ordre « Fighting Oligarchy », combattre l'oligarchie. Et cette série de meetings se poursuit encore actuellement. Alors, le sens aux États-Unis, il est polémique comme il l'est en France. Le terme est surtout employé par les démocrates. Et il vise à désigner Donald Trump et le groupe de milliardaires qui l'entourent. Un groupe qui exerce un pouvoir dans ses propres intérêts, de manière exclusive, non seulement par la capacité d'influence qu'il a, mais aussi par l'occupation de fonctions officielles. La notion d'oligarchie entend aussi dénoncer les atteintes aux valeurs et aux institutions démocratiques. Et là, on retrouve un des sens originels de oligarchique, hein, qui signifie antidémocratique aussi.
Alors, on va faire un peu d'histoire grâce à vous, Dominique Lenfant. On va commencer par l'histoire récente avant de remonter à la Grèce antique, qui est votre domaine de recherche. Commençons par les années 90. Les oligarques, c'est évidemment une expression, un terme qui rappelle immédiatement la chute de l'URSS. À ce moment-là, au moment où justement des hiérarques soviétiques font fortune grâce aux privatisations qui ont cours au moment de la chute de l'URSS, comment ce terme-là d'oligarque est-il employé? Et on parle d'hommes d'affaires et non pas de personnes qui détiennent le pouvoir politique.
Oui. Alors là, pour le coup, quand on parle du phénomène russe, on parle d'oligarque au pluriel. On ne parle pas trop d'oligarchie. C'est vrai que longtemps, on pensait aux Russes dès qu'on disait les oligarques. Quand Christine Ockrent a sorti un livre sur ce sujet en 2014, ça s'intitulait « Les oligarques », sans autre précision. Donc on a là un petit groupe de milliardaires qui a bâti sa fortune, comme vous venez de le dire, sur la privatisation des biens collectifs du temps de l'URSS, et qui a bâti cette fortune par toute une série de manipulations qui ont été permises par la proximité avec le Kremlin. Ce qui s'est effectué donc du temps de Boris Yeltsin dans les années 90. Et ensuite, il y a eu une deuxième génération d'oligarques au tout début du 21e siècle, avec Poutine, où ces oligarques se sont enrichis grâce à l'appareil d'État, avec la complicité de l'État. Ce petit groupe de milliardaires détient un pouvoir qui n'est pas officiellement ancré dans les institutions, mais qui repose à la fois sur la détention d'une fortune colossale et sur la connivence avec les dirigeants politiques. Et autant dans la première génération, ces oligarques avaient une influence réelle sur les décisions politiques, autant depuis Poutine, eh bien, il y a une séparation des pouvoirs, si j'ose dire. Le pouvoir économique, disons, est dans les mains des oligarques, en accord avec le Kremlin, mais c'est Poutine qui se réserve toutes les décisions politiques.
Alors, direction la Grèce antique avec vous, Julien Bisson.
Oui, on va
pour le cours du temps.
On va repartir 25 siècles en arrière. Vous nous l'avez dit, le terme oligarchie, oligarque aujourd'hui a plutôt une connotation péjorative. Qu'en est-il, il y a 25 siècles, dans cette Grèce antique? Quel lien il peut y avoir entre ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on imagine de l'oligarchie, et les régimes qui pouvaient exister dans cette Grèce de l'époque?
Dans la Grèce antique, oligarchie, ça désigne un type de régime, comme vous venez de dire. Ça ne désigne pas une classe ou un petit groupe à l'intérieur d'une société, en particulier d'une société démocratique. Ou démocratique ou non, d'ailleurs. Donc, oligarchie, c'est un régime politique et c'est un des trois grands régimes politiques que distinguent les Grecs à partir du 5e siècle. Donc, il y a la monarchie, il y a la démocratie. Entre les deux, on pourrait dire, il y a l'oligarchie. La démocratie, c'est le régime où chaque citoyen peut participer directement aux décisions, participer à leur mise en œuvre, mais aussi contrôler ceux qui exercent une charge publique. L'oligarchie, c'est un autre type de régime. Qu'est-ce qui ressemble dans l'oligarchie antique à la notion moderne d'oligarchie? On pourrait dire que comme point commun, il y a le fait que le pouvoir est exercé par un petit nombre, que ce petit nombre d'hommes se distingue par sa richesse et... Vous m'interrogiez sur la connotation, le terme est le plus souvent péjoratif, en particulier dans la bouche des démocrates. Le petit nombre implique l'exclusion du grand nombre et une forme d'usurpation du pouvoir, en quelque sorte. La grande différence entre la Grèce et aujourd'hui, du point de vue de l'emploi du terme d'oligarchie, c'est que l'oligarchie, dans la Grèce antique, a un caractère institutionnel, un caractère officiel. Le régime oligarchique ne prétend pas être une démocratie. Il s'assume comme oligarchie, en quelque sorte. Et le pouvoir y est ouvertement réservé à un groupe restreint de citoyens. Les oligarques, c'est la classe qui exerce une fonction politique directe dans ce régime.
Alors justement, ce qui est passionnant, Dominique Lenfant, dans vos travaux, c'est que ce rapport à l'oligarchie n'est pas seulement théorique, non ? À travers deux coups d'État, et notamment celui de 404 avant Jésus-Christ, l'oligarchie a bel et bien exercé le pouvoir au cours de la Grèce antique. Et donc, on va pouvoir étudier ensemble les résultats de cet exercice du pouvoir. Je voudrais pour cela vous faire entendre la voix de Paulin Ismar. Il est professeur d'histoire grecque à l'université d'Aix-Marseille. Et il raconte justement ce coup d'État de 404 avant Jésus-Christ.
Tout autant que la participation de tous les citoyens aux institutions civiques est au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne. Ce qui est aussi très très important dans l'idéologie démocratique, c'est vraiment le contrôle exercé par le peuple sur les élites. Et ce contrôle, d'une façon, se renforce dans le courant de la guerre du Péloponnèse. Et c'est une figure qui incarne très bien ce basculement, hein, c'est la figure du démagogue. L'apparition de la figure du démagogue est la preuve qu'en réalité, c'est désormais le peuple qui guide ou qui domine ses propres élites. Donc il y a toute cette tension qui évidemment est à l'œuvre dans la société, dans la politique athénienne, au cours des années 420-410, et qui est à l'arrière-plan de la crise politique ou du coup d'État oligarchique de 404-403.
Alors, en quelques mots, Dominique Lenfant, posons le décor. Nous sommes à Athènes, en 404 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui amène une oligarchie à susciter un tel coup d'État ?
Alors, d'abord, dans la cité, il y avait un certain nombre de partisans du régime oligarchique. Il y avait des théoriciens même du régime oligarchique. Les oligarques justifiaient leur aspiration à un tel régime en considérant que la classe possédante était aussi celle qui payait de sa personne en participant aux opérations militaires et qui payait de sa bourse, si j'ose dire, en payant des impôts. Et que, par conséquent, il était normal que ce soit elle qui prenne les décisions, d'autant qu'elle estimait avoir des qualités de culture, pourrait-on dire, de formation, de sagesse, que n'avait pas la classe populaire. Parce qu'elle avait pu, grâce à son argent, d'une certaine manière, disposer d'une certaine éducation.
Elle se percevait comme plus éclairée, dans le fond.
Voilà, oui. Oui.
Julien Bisson.
On a cette image de la démocratie athénienne, la démocratie parfaite de Périclès qui vivait quelques décennies plus tôt. Est-ce qu'il y avait des failles au sein de ces démocraties athéniennes qui ont pu permettre de donner cours à ce coup d'État ?
Alors, le coup d'État de 404, il a des sources qui sont fortement liées aux circonstances aussi. Parce que le régime a pu s'imposer grâce à la défaite qu'Athènes avait subie dans la guerre du Péloponnèse.
Contre Sparte.
Dans la guerre du Péloponnèse qui l'opposait à Sparte. Et donc ça a eu un rôle très important. On a parfois comparé ce qui s'était passé à Athènes à ce qui s'est passé dans la France qui est devenue la France de Vichy après la défaite de 1940. Alors à Athènes, des oligarques ont manigancé en quelque sorte pour avoir l'appui de l'ennemi Sparte pour prendre le pouvoir et renverser la démocratie. Et ils l'ont fait par toutes sortes de techniques, si l'on peut dire. Certains se sont arrangés pour que les négociations de paix durent longtemps, de manière que la cité soit affamée et acculée à accepter les conditions imposées par Sparte. Des oligarques ont pris soin d'assassiner les démocrates les plus influents. Et ils ont mis sur la table la question du régime. Et lors d'une assemblée qui devait décider du régime, ils ont fait intervenir à l'assemblée athénienne un général spartiate qui est venu menacer les Athéniens au cas où ils n'adopteraient pas un régime oligarchique. Donc il y a vraiment eu toute une série de manipulations par finalement une poignée d'hommes qui se sont avérées fructueuses. Et dans un premier temps, donc l'Assemblée a voté elle-même la remise de pouvoir à un ensemble de 30 citoyens. Théoriquement, c'était des pouvoirs de préparer les nouvelles lois. Le pouvoir de préparer des nouvelles lois. Et en fait, ces 30 n'ont jamais préparé de nouvelles lois, mais se sont emparés du pouvoir de manière progressive. En laissant même un temps vaguement planer le doute sur la nature même du régime. Et il y a eu un certain nombre d'attaques qui, puisque on s'intéresse aussi à l'actualité, qui présentent des parallèles avec un certain nombre de phénomènes qu'on observe aux États-Unis depuis le début de l'année. Par exemple, il y a eu des attaques contre le système de justice. La justice populaire a été anéantie. On avait dans la démocratie athénienne une justice rendue par le peuple. On a fermé en quelque sorte ces tribunaux populaires pour confier tous les procès à un conseil qui était à la botte des 30 et qui était une sorte de tribunal politique en quelque sorte. Autre rapprochement que l'on peut faire avec ce qui se passe aux États-Unis, les attaques contre la liberté d'expression ou la liberté de recherche. Les oligarques athéniens ont, par exemple, interdit à Socrate d'enseigner l'art des discours, de s'entretenir avec des jeunes gens, de discuter de certains sujets et bien sûr de critiquer les 30. Et là, on peut voir évidemment des parallèles avec les interdictions de thèmes d'enseignement et de recherche par l'administration Trump ou d'autres formes de censure.
Un autre parallèle que je souhaiterais examiner avec vous, Dominique Lenfant, ce sont les arguments progressifs qui ont permis l'avènement de cette oligarchie d'un côté et la critique de la démocratie de l'autre. Vous avez publié « La constitution des Athéniens » du pseudo-Xénophon aux éditions Belles Lettres. Je voudrais qu'on en écoute un extrait passionnant, traduit par Juliette Moellic de l'équipe de Questions du Soir.
En tout pays, ce qu'il y a de meilleur est opposé à la démocratie. C'est en effet chez les meilleurs qu'il y a le moins de dérèglement et d'injustice, et le plus d'application aux actions honnêtes. Et c'est chez le peuple qu'il y a le plus d'ignorance, d'indiscipline et de friponnerie. Car la pauvreté les conduit plutôt aux actions honteuses
tout comme l'absence d'éducation et l'ignorance due chez certains hommes au manque d'argent. On pourrait dire qu'il ne devrait pas permettre à tous, sans distinction, de prendre la parole et d'être membre du Conseil, mais à ceux qui sont les plus intelligents et des hommes excellents. Mais eux, sur ce point aussi, prennent une excellente décision en permettant même aux fripons de prendre la parole. Car si c'était les honnêtes gens qui prenaient la parole et qui délibéraient, ce serait bon pour leurs semblables, mais ce ne serait pas bon pour les gens du peuple. On pourrait dire, mais en quoi donc un pareil homme pourrait-il se rendre compte de ce qui est bon pour lui ou pour le peuple ? Mais eux se rendent compte que l'ignorance, la friponnerie et la bienveillance de cet homme sont plus profitables que la valeur, le savoir et la malveillance de l'honnête homme.
Juliette Moellic de l'équipe de questions du soir a dit ce texte, et évidemment c'est vous qui l'avez traduit, Dominique Lenfant, pardon, pour cette erreur. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est l'opposition formelle, évidente, qui est marquée entre, d'un côté, les fripons, c'est-à-dire le peuple au sens la masse populaire et dangereuse même, et de l'autre, les honnêtes gens. Alors comment cette distinction structure la critique que les oligarques formulent à l'encontre de la démocratie ?
Oui. Alors, c'est surtout très marqué dans ce traité-là, hein, cette opposition entre les pauvres qui sont assimilés à des fripons, voire des scélérats, et les riches qui sont cette classe éduquée qui devrait avoir droit au pouvoir. Et donc, comme vous l'avez compris, le pseudo-Xénophon déplore qu'on accorde la parole aux pauvres qui sont en même temps présentés comme mauvais. Et il présente la démocratie comme le régime qui donne la suprématie à cette classe populaire sur les riches. Il présente les pauvres comme des oppresseurs des riches sur le plan politique, parce que, étant donné qu'ils ont la majorité à l'Assemblée, ils font prévaloir des mesures qui leur sont favorables, qui sont favorables à leurs intérêts, par exemple des indemnités de fonction pour l'accomplissement de fonctions publiques. Le peuple, d'après l'auteur, profite des riches aussi sur le plan économique, puisque le peuple, au sens de classe populaire, au sens social, fait financer les services publics par l'élite. Alors, c'est un tableau polémique, hein, de la vie dans la société athénienne, un tableau polémique qui scinde le corps civique athénien en deux groupes ennemis, en quelque sorte, aux intérêts antagonistes, qui fait de l'élite l'ennemi absolu de la démocratie. Et c'est un tableau qu'on peut dire irréaliste, hein, qui ne correspond pas à la réalité, étant donné que l'élite, au contraire, a largement collaboré dans sa grande majorité à la démocratie.
Julien Bisson.
Après ce coup d'État de 404, on a ce régime des 30. Combien de temps est-ce qu'il va durer, ce régime, et comment finalement peut renaître une démocratie, dans ce cas athénien ?
Alors, le régime des 30, qui a évolué ensuite en régime des 10, à un moment ils ont été destitués, mais remplacés toujours par des oligarques, cette oligarchie a duré un an. Elle a duré un an dans un premier temps, il y a eu cette prise de pouvoir progressive que j'évoquais tout à l'heure, avec ces attaques donc contre la justice, contre la liberté d'expression, contre certaines catégories qui n'ont cessé de s'élargir, et toute une série d'attaques contre des gens qui pouvaient prendre la forme de proscription, de bannissement, de confiscation, de mise à mort aussi. Et un certain nombre de citoyens se sont exilés. Le régime a pratiqué une très grande violence, en grande partie parce que il s'est implanté dans une démocratie qui existait de longue date, et il s'est heurté à une opposition, où il craignait une opposition qui l'a conduit à user d'une extrême violence. Et pour répondre à votre question, un certain nombre de citoyens se sont exilés. Et le véritable mouvement de résistance est parti de l'extérieur. Il a été organisé par ses citoyens, aussi par des étrangers résidant à Athènes, hein, qui se sont véritablement battus, hein, comme un mouvement de résistance pour reconquérir le pouvoir.
Merci beaucoup, Dominique L'Enfant, d'être venu nous éclairer sur ce double concept d'oligarque et d'oligarchie. Je rappelle que vous êtes historienne, directrice de l'Institut d'Histoire Grecque de l'Université de Strasbourg. Et merci à vous également, Julien Bisson. Qu'est-ce que l'on trouve dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine ?
Eh bien, on se demande comment gagner la bataille de l'attention, notamment aux côtés du philosophe Baptiste Morisot.
Et je vous renvoie vers cet épisode de Questions du soir il y a quelques semaines et qui résonne avec le thème que nous venons d'aborder. Il était intitulé « Qu'apprendre des contextes pré-révolutionnaires ?» C'était une discussion avec l'historien américain Robert Darnton. Et merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bruno Barada, Roxane Poulain, Bertine Bourdon, à la réalisation ce soir comme chaque soir, Léa Racine.